Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine, Escale examine le rôle de l'architecte dans le développement durable. Nous irons à la rencontre de divers architectes de renommée mondiale qui ont récemment participé à une table ronde sur cette question au siège de l'ONU à New York, tous des lauréats du prix Pritzker, venus pour l'édition 2016 de ce Grand Prix de l'architecture. Face à l'urbanisation galopante, aux défis que pose le changement climatique et aux inégalités croissantes, l'Organisation des Nations Unies cherche des réponses et des alliances. Aussi, l'organisation s'est dotée d'un plan mondial de développement à l'horizon 2030. Il comprend 17 objectifs de développement durable, surnommés les ODD, qui visent l'amélioration de la qualité de vie, notamment dans les villes et les communautés. Au-delà de forger des alliances entre gouvernements, l'organisation internationale cherche à accroître la participation de l'ensemble des acteurs de nos sociétés, y compris le secteur privé et la société civile. C'est le cas de l'alliance qui s'est récemment formée entre le Fonds pour les ODD et l'association du prix Pritzker pour l'architecture pour examiner le rôle de l'architecte dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté.
Good evening. And welcome to the ceremony for the presentation of the 2016 Pritzker Architecture Prize.
L'édition 2016 de ce Grand Prix de l'architecture s'est tenue à l'ONU et a été suivie d'une table ronde avec sept de ses grands lauréats, dont le dernier arrivé, l'architecte chilien Alejandro Aravena. Explication de Pamela Duran, directrice du Fonds pour les ODD.
Dans le nouvel agenda, il y a un objectif, le 11e, dans lequel nous essayons vraiment de promouvoir le développement de villes ouvertes, résistantes, mais aussi durables, avec l'idée qu'il faut mettre en avant des politiques urbaines qui sont un atout pour assurer la durabilité et réduire la pauvreté et les inégalités. Je pense que le travail d'Alejandro Aravena est un très bon exemple de ce qu'on peut faire en prenant en compte tout cela. Il a été reconnu pour son engagement envers les logements sociaux, ainsi que son expertise en matière de design architectural. Aravena et ses collaborateurs ont travaillé durant de nombreuses années dans des projets ayant des objectifs sociaux clairs, qui allient innovation, flexibilité et solutions architecturales directes.
En effet, à travers son cabinet Elemental, Alejandro Aravena a construit quelques 2500 unités de logements sociaux à faible coût à Quinta Monroy, en Iquique, dans le nord du Chili. Il répondait à une équation.
Les gens migrent vers les villes parce qu'elles regroupent des opportunités. Et même si cela peut sembler contre-intuitif, c'est un fait avéré. L'accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi a tendance à être meilleur en milieu urbain. Le problème est l'échelle, la vitesse et le manque de moyens avec lesquels se développe cette urbanisation sans précédent. Des plus de 3 et quelques milliards de personnes qui vivent en milieu urbain aujourd'hui, 1 milliard vivent sous le seuil de pauvreté. En 2030, plus de 5 milliards habiteront dans des villes, dont 2 milliards sous le seuil de pauvreté. Cela veut dire que nous devons construire une ville d'un million d'habitants par semaine avec 10 000 dollars par famille. Si nous ne trouvons pas de solution à cette équation, les gens continueront quand même de s'installer dans les villes, mais ils habiteront dans des conditions déplorables.
C'est justement pour lutter contre la pauvreté et assurer de bonnes conditions de vie que le lauréat Pritzker 2016 prône une approche collaborative.
Les études démontrent qu'une famille de classe moyenne peut vivre raisonnablement bien dans une maison de 80 mètres carrés. Mais dans le meilleur des cas, même en faisant des efforts, nous n'arrivons qu'à en fournir qu'environ 40 à travers le globe. Donc ce que nous avons fait, c'est de regarder ces 40 mètres carrés comme la moitié d'une maison correcte, plutôt que comme une petite maison. La question clé est de savoir quelle moitié construire. Avec l'argent public, il faudrait s'occuper de la moitié que la famille est incapable de construire elle-même. Donc on procède par étapes pour affronter le manque. Il faut adopter un système ouvert et progressif qui est mis en œuvre par l'État de façon coordonnée. Le cadre, l'espace public, l'accès à l'assainissement et l'infrastructure, mais qui laisse également une marge de manœuvre aux familles pour contribuer à ce système.
Cette approche a non seulement permis de fournir des logements agréables et décents à un coût fortement réduit, elle s'est avérée être un bon investissement.
Ce que nous avons observé, c'est que ces unités de logement ont gagné de la valeur à travers le temps. Donc le logement peut être considéré non pas comme une dépense sociale, mais comme un véritable investissement. La preuve est dans le premier projet que nous avons réalisé à Quinta Monroy, dans le nord du Chili. Une des habitantes est venue nous féliciter de l'obtention du prix et nous a dit qu'après 12 ans, quelques-unes des familles avaient vendu leurs unités. Ces unités qui avaient coûté 7 500 $, dont 300 $ apportés par les familles, ont été vendues 65 000 $. C'est ce genre de plus-value que nous visons. C'est ce que nous appelons des opportunités d'utiliser la ville comme raccourci vers l'égalité.
Dans un geste de véritable engagement, Alejandro Aravena a décidé de mettre à disposition les plans de Quinta Monroy sur Internet. Désormais, personne ne pourra dire qu'il ne dispose pas des plans et qu'ils ne peuvent pas. Lors de la table ronde, chacun des 7 lauréats Pritzker devait, en 3 minutes, présenter ses idées sur l'architecte et l'espace construit aujourd'hui avec l'un de leurs bâtiments à l'appui. Glenn Murcott, Renzo Piano, Richard Rogers, Wang Shu, Jean Nouvel et Christian de Porzamparc ont également participé à la table ronde, l'occasion de leur tendre le micro. Pour Jean Nouvel, l'architecte français qui a réalisé l'Institut du monde arabe ou encore le musée du Quai Branly à Paris, l'architecte doit se réapproprier son pouvoir de prise de décision.
L'architecture est importante, d'abord parce que c'est le plus ancien des arts, ensuite parce que c'est la pétrification souvent des générations et des cultures qui se succèdent. Et cette architecture, elle est aujourd'hui dans une situation un peu délicate puisque son champ a été réduit pratiquement. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que beaucoup de disciplines qui tournent autour de l'urbanisme, par exemple, ne sont plus de l'architecture. Ce qui veut dire que toutes les décisions sensibles, et là, en tant que personnage sensible, en tant que poète aussi, et pour défendre en fait une vie et une ville qui soit à la fois optimiste et agréable à vivre pour tous ceux qui vont la vivre. Je crois qu'actuellement, on est dans une évolution du monde où l'architecte a perdu beaucoup, beaucoup de pouvoir. C'est pas très grave pour les architectes, mais c'est surtout grave pour les habitants qui perdent leur avocat, en fait, la personne qui peut les défendre pour avoir des conditions de vie basées sur une dimension de plaisir, surtout.
Alors, quand on sait justement que l'on fait face à une urbanisation galopante, vous avez mentionné que l'architecte peut être l'avocat des habitants des villes. Quel rôle souhaiteriez-vous voir accorder à l'architecte ?
Moi, je crois que l'architecte doit retrouver son rôle sociétal qui était celui qu'il avait, ça fait déjà des décennies. Mais aujourd'hui, pour n'importe quelle personne dans la rue qui est responsable de la laideur des bâtiments aujourd'hui, de la situation des banlieues, etc., c'est l'architecte, alors qu'il n'a plus le pouvoir. Donc ce n'est pas pour défendre les architectes. Architecte est un métier qui doit évoluer de par son profil et de par son enseignement, mais il est évident que toutes les décisions initiales doivent être des décisions d'ordre sensible. Or, actuellement, toutes les décisions sont d'ordre technocratique, sont d'ordre fonctionnel, sans d'ordre, et on oublie en fait le plaisir de vivre, ce qui est quand même essentiel pour les habitants de nos villes.
On parle de développement durable. Quel peut être l'apport de l'architecte pour ce développement ?
L'apport de l'architecte, il est fondamental s'il est là ou au bon moment. Mais la plupart des décisions dites durables sont prises avant. C'est-à-dire que si on continue à développer les villes en les agrandissant, on ne peut pas être durable. Si on continue à réduire les prix comme cela et à faire en sorte que l'argent parte ailleurs que dans les bâtiments, on ne peut pas être durable. Pour être durable, il faudrait déjà que la notion de coût global, c'est-à-dire d'un bâtiment qui soit construit correctement pour pouvoir durer et pour pouvoir remplir son rôle et être le plus économique à l'échelle de plusieurs vies humaines, ça, les conditions ne sont pas remplies. C'est une religion qui est correcte, mais qui n'est pas appliquée initialement par les gens qui ont le pouvoir.
Que souhaiteriez-vous voir la prochaine génération ou les architectes faire aujourd'hui pour changer la situation ?
Mais ce que je souhaite, c'est que puisse se créer une véritable prise de conscience, non pas seulement des architectes, mais de toutes les personnes qui s'interrogent sur un plan philosophique, sur un plan existentiel, sur la nature de leur vie et de leur ville, et que la ville redevienne un problème politique fondamentale. Et qu'à partir de là, on puisse commencer une mutation urbaine et reconquérir des territoires d'épanouissement, de plaisir, de partage. Le vivre ensemble, il faut le travailler.
Pour Christian de Porzamparc, architecte français et auteur de la tour LVMH à New York et de la Cité de la Musique à Paris, la mixité de l'espace urbain et le retour à la rue sont la clé pour rendre nos villes plus habitables.
J'ai insisté sur quelque chose qui, je pense, est très important pour l'avenir, qui est une question vraiment de l'espace. et les architectes et les urbanistes ont cette expérience de l'espace. Eh bien, c'est quoi ? C'est les immenses périphéries urbaines qui sont gigantesques à travers le monde, dans tous les pays. Nous les voyons et elles sont difficiles à vivre. Elles sont souvent coupées en enclaves parce qu'il y a des trains et des autoroutes partout, qu'on n'a pas eu l'argent de faire les ponts, de tout traverser. Il y a beaucoup de zones, ce qu'on a appelé autrefois le zoning, vous savez. Ici, on met plein d'habitations pauvres, là, plein d'habitations riches. Un peu plus loin, c'est que du bureau. Un peu plus loin, c'est deux immenses centres commerciaux. Et cette manière de faire la ville a été très efficace, si vous voulez. Chaque métier, celui qui construit pour les riches, celui qui construit pour les bureaux, chaque métier trouve son grand terrain. Mais la ville n'est pas faite de cela. Et nous avons besoin de liens. On parle beaucoup de mixité. Et j'insiste sur retrouver des choses qui sont aussi simples que la rue, qui permet la transformation dans le futur. Je dis, le durable, c'est le transformable. De quoi aurons-nous besoin dans 40 ans ou 50 ans ? De quoi auront besoin nos enfants ? Et bien sûr, une rue, vous avez une variété de choses qui peuvent se transformer. Un immeuble d'habitation peut devenir une école. Et oui, alors que si c'est des grandes zones, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez une entrée, 18 bâtiments, quelquefois tous plus ou moins pareils, et vous n'avez rien à transformer.
C'est une question d'apporter une mixité sur une échelle plus réduite de l'espace ?
Oui, et de retrouver cet esprit qui est la vie urbaine avec les espaces publics, les rues, les avenues, qui ne sont pas seulement des voies à grande vitesse, qui permettent aussi d'aller à pied et en vélo. Il faut arriver à mélanger ça. C'est ce que l'on essaie de faire certaines villes. Il y a beaucoup de pays où on voit que ça va dans le sens contraire, si vous voulez. Donc vous voyez, je n'ai pas parlé de l'architecture au sens glamour et grandiose que nous adorons aussi et dont nous avons besoin. J'ai parlé de quelque chose de plus basique. Au fond, c'est plutôt les autorités, les maires qui vont répondre à ce que je dis. Mais les architectes sont ceux qui peuvent être conscients et conseillés pour ça, vous voyez, parce qu'ils sentent bien cet espace qui ne marche pas.
Ils savent comment articuler ces changements ?
Normalement, ils sont très conscients de ça. En tout cas, ils savent comment, je pense, dire là, ça ne va pas, on peut faire autre chose, vous voyez. C'est peut-être le degré zéro de basique de l'idée de l'architecture, c'est de s'intéresser à l'espace. Et l'espace public est en train de disparaître. Je connais des endroits, au Brésil par exemple, immense, là où j'ai construit la Cité de la Musique à Rio, tout le quartier de Barra, sur 14 km, ce sont des grands condominiums, des grandes zones, vous entrez avec une carte à puce, soit vous avez que des tours d'habitation, soit vous avez que des tours de bureaux, soit vous avez les centres commerciaux, il y en a 10 à la file, et ça marche, il faut toujours avoir la voiture, mais c'est un univers de poches fermées. Il n'y a pas de rue, ils n'ont pas fait avec des rues.
Il n'y a pas de convivialité entre les citoyens.
Il n'y a pas de convivialité. Les gens, ils ont leur boulot, ils repartent en voiture, ils reviennent en voiture, ils ont la télé.
Alors justement, face à l'urbanisation galopante qui est prévue, comment est-ce que l'on peut accommoder cette urbanisation ?
Un des problèmes, c'est de retrouver les liens dont je parle. Et je sais en plus que c'est assez difficile parce que la propriété privée est en quelque sorte sacrée par les règles dans tous les pays. Et quelquefois, il faudra arriver à ce que le maire, l'intérêt public, négocie de refaire passer deux rues qui vont désengorgés et qui vont faire que tout le monde peut passer, que tous les chemins mènent à Rome, sinon vous avez... Alors je décris un monde de grandes poches que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais il faut aller dans les grandes périphéries pour découvrir ça, si vous voulez.
L'architecte chinois Wang Shu, auteur du musée de Ningbo, a mis en garde contre une quête de modernité effrénée. Selon lui, dans son pays, l'architecture moderne amonte à une révolution de design qui entend que les architectes n'ont pas besoin de préserver l'histoire. Cette révolution s'est traduite par la destruction de 90% des bâtiments du pays au cours des 30 dernières années. Il affirme que dans 10-20 ans, les gens se sentiront très nerveux car ils auront perdu toute trace de leur histoire et vécu. Il faudrait que cette révolution construise sur les vestiges et fondations de son passé sans pour autant le détruire. Glenn Murcott, architecte australien qui s'est calqué sur le fonctionnement de la nature pour nombre de ses œuvres, a mis l'accent sur le caractère de nos sociétés multiculturelles qui exigent l'acceptation de l'autre avec, en illustration, sa mosquée à Victoria, en Australie.
Avec l'arrivée en grand nombre de la communauté musulmane en Australie, il y a eu d'énormes difficultés entre la population australienne, qui comprend quelque 40 communautés, et la communauté musulmane. Et donc mon message ce soir, c'est que nous devons être beaucoup plus ouverts et absolument accepter les musulmans qui ont beaucoup à apporter à notre culture. Traditionnellement, une mosquée du monde arabe comprenait une cour murée qui donne une impression d'exclusivité. Mais lorsque vous n'êtes pas musulman, cela provoque une sensation d'exclusion, que vous n'êtes peut-être pas le bienvenu dans cet espace. Nous n'avons pas de minarets, de dômes, ni les symboles généraux traditionnels, mais nous avons inclus des principes directeurs comme l'utilisation des nombres impairs dans la construction. Incroyablement, les gens l'identifient comme une mosquée, alors que la communauté l'aperçoit tout simplement comme un autre bâtiment dans le quartier. Et c'est ce que je voulais réaliser.
Et c'est ainsi que se referme notre édition d'Escale, comment construire notre avenir, le rôle de l'architecte dans le développement durable. Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.